Bonjour mes frères et sœurs, nous voilà devant un enseignement de nouveau ce soir et je prie que le Seigneur Jésus nous inspire, vous et moi, afin que nous soyons inspirants pour tous ceux qui nous entourent. Merci Jésus, Amen. Mes frères et sœurs, la moindre des choses qu'on puisse dire, c'est que rien n'est simple ici-bas. Ce que Dieu a créé, c'est absolument magnifique, mais c'est quand même très complexe. Et on ne peut pas vraiment comprendre, sonder la totalité de sa création. Il faut être humble, n'est-ce pas? Même nous-mêmes, nous avons fort à faire pour nous comprendre nous-mêmes. Notre corps physique, avec ses appétits, avec ses désirs, notre corps émotionnel, avec ses passions, notre corps mental, avec ses croyances, ses préjugés. Pas facile hein, de s'y retrouver pour faire la chasse à l'égocentricité. Heureusement que depuis que nous avons fait la paix avec Dieu, ben on peut, si on veut, compter sur le secours du Saint-Esprit. On peut encore faire comme on veut, hein. Et puis on paye des pots cassés après, on perd du temps, et puis on ne glorifie pas Dieu en faisant ces choses-là. Ce qu'il nous faut, c'est vouloir écouter le Saint-Esprit. Notre esprit est de la même nature que l'Esprit du Père. Et il fait le lien entre notre moi et le divin, notre esprit. Notre Créateur, il est absolument inaccessible à notre personnalité charnelle. Alors, le Saint-Esprit parle à notre esprit. Il lui parle d'humilité, il lui parle de volonté, il lui parle de vigilance, de persévérance, enfin de beaucoup de choses. Et je vous ai déjà dit, mais j'aime bien redire ces choses, la force de notre esprit, elle se forge dans le silence, pas dans l'agitation. La force que le Saint-Esprit forge dans notre esprit, c'est une force qui nous porte à faire le bien. Mais qu'est-ce que c'est que le bien? Vous rappelez Pilate qui disait, mais qu'est-ce que la vérité? On peut s'y poser la question, mais c'est quoi le bien? L'opposé de la force que donne le Saint-Esprit, c'est le vice. Et le vice, c'est l'inclination perverse à faire ce qui est mal en connaissance de cause. Parce que c'est vrai, mes frères et sœurs, si on ne sait pas qu'une chose est mal, voilà, on est dans un temps d'innocence, mais quand on sait que c'est mal. Pour nous, enfants de Dieu, le mal, c'est pas apprendre au sens moral, puisque nous savons mieux que tout le monde, alors, et même tout le monde le sait, hein, on a la connaissance du bien et du mal, tout être humain a la connaissance du bien et du mal, mais la culture peut venir des fois bouleversifier un petit peu tout ça, et non, le mal doit être entendu et compris d'une autre façon. Qu'est-ce que le mal ? Je me souviens que mon père savait construire des murs. C'est lui qui avait construit la maison que nous possédions en Suisse, à Chèvres, et il fabriquait lui-même ses propres parpaings, et il savait qu'on ne construit pas un mur solide simplement en empilant, n'est-ce pas, des parpaings. Il y a une façon de faire, il y a une façon de les poser les uns sur les autres. On ne les empile pas. On avait un voisin, d'ailleurs c'était un astrologue à Chèvres, je vous en ai déjà parlé de cet astrologue, Monsieur Pache. Alors lui, il avait aussi voulu monter un mur chez lui, et il avait empilé les parpaings, vous savez, il mettait les uns sur les autres en mettant du ciment, comme ça. Empilé, des piles. Et mon père lui a expliqué que pour monter un mur, ben d'abord il faut faire une espèce de petite, il faut faire un, comment on appelle ça, un trou, il faut faire un... Et puis ensuite, dans ce trou, ben, on pose un lit de ciment, et puis on pose nos premiers parpaings. Et alors, on fait attention, parce que les premiers ne doivent pas être de travers. Hein, il y a rien qui doit être de travers. Donc, il y a toutes sortes d'outils qu'on doit utiliser pour que ça soit le niveau, l'équerre, enfin, toutes ces choses-là, pour que ça soit bien droit. Et puis ensuite, on pose la deuxième rangée. Et pour poser la deuxième rangée, eh bien, on doit croiser les joints, c'est-à-dire que le joint du dessus doit se trouver au milieu du parpaing du dessous. Et puis, on doit continuer comme ça, dans toute la continuité de la construction, on doit faire comme ça, et ça donne de la solidité au mur. Sinon, ben, on a un mur qui a un vice de construction. Il est construit, oui, un mur, mais il est mal construit. Alors je reviens à notre conception du mal chez un enfant de Dieu. Le mal, c'est un vice de construction. Vous devez faire attention, vous devez prendre garde à l'édification du temple que vous êtes. C'est à vous de construire. Et vous avez des matériaux à choisir pour construire. C'est vous qui faites. Vous êtes le temple du Saint-Esprit, mais vous ne devez pas avoir de vice de construction. Bon, je vous ai déjà parlé des matériaux à utiliser dans une prédication précédente pour construire votre vie, hein, du chaume, du bois, de l'or, de l'argent. Vous vous souvenez, je vous ai enseigné ces choses pour construire votre temple intérieur et extérieur aussi. Si vous ne prenez pas les bons matériaux, l'édifice que vous construisez ne tiendra pas longtemps et ne résistera pas à l'épreuve du feu. Vous vous rappelez que je vous ai enseigné ces choses. Mais il y a d'autres vices. Il y a un autre mal que je vois souvent dans le milieu chrétien, c'est de toujours être en construction et de ne pas accueillir Dieu dans notre temple tant que la construction n'est pas finie, tant qu'on juge que ça n'est pas encore tout à fait ça. Je vous le dis tout de suite, mes frères et sœurs, vous ne serez jamais assez bons pour pouvoir accueillir le Seigneur dans votre vie. Vous ne serez jamais au niveau de son standard de perfection. C'est pourquoi le Saint-Esprit instruit votre esprit en vue de l'humilité. J'ai entendu souvent des gens me dire: Oh, j'attends avant de me faire baptiser parce que je me sens pas prêt. Et cette phrase, elle ressemble à de l'humilité. On pourrait dire, ah, ben, il se sent pas prêt, il est humble, il veut se fortifier d'abord, il veut se purifier d'abord. Ça paraît très humble, mais en vérité, c'est de l'orgueil. Parce que vous serez jamais assez saint pour pouvoir accueillir Jésus en vous. Soyez humble. Reconnaissez cela. Invitez Jésus à venir en vous, même si vous n'êtes qu'au début de la construction du temple que vous êtes. Soyez conscient de la compagnie de Jésus avec et en vous. Invitez-le. Entretenez une conversation avec lui. Je vous pose une question. Voulez-vous que Jésus prenne les commandes de votre vie? Si vous dites oui, c'est que vous avez réellement l'intention de faire preuve de cette volonté et de cette résolution. En un mot, vous avez la vraie force du Saint-Esprit. Parce que vous avez compris que par vos œuvres, vous ne pouvez pas plaire à Dieu. Comme je vous le disais dimanche passé, vous devez sacrifier votre vie, la sacraliser, vous vous rappelez? Par le travail, par l'amour, par la connaissance des lois d'harmonie de Dieu et la mise en pratique de ces lois. Quel travail avez-vous à faire? Celui de vous élever au-dessus des intérêts de votre moi. Ces intérêts sont vils et ces intérêts vous tourmentent. C'est le tourment de votre vie. Alors pour travailler à cette évolution, vous devez travailler sans relâche à accoutumer vos pensées et à vous livrer à des pensées belles, grandes, des pensées d'affection, des idées solides. On va lire ça, si vous voulez, dans Philippiens 4, 8. Philippiens 4, 8, j'ai noté le texte, il est là. Voilà ce que Paul dit, enfin, frères et sœurs, portez vos pensées sur tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est digne d'être aimé, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est synonyme de qualité morale et ce qui est digne de louange. Vous voyez, tout un programme, n'est-ce pas? Tout un programme. Veillez à cela, mes frères et sœurs, à vous accoutumer. Accoutumez vos pensées à se livrer à de belles et grandes affections et à des idées solides. Pas à ces espèces de fables, de trucs, de machins, d'histoires de déréglées. Souvenez-vous, vous devez faire le bien en connaissance de cause. Si vous vous engagez et que vous rétrogradez, c'est faire le mal. C'est mal vous construire. C'est pourquoi Jésus nous dit de réfléchir avant de s'engager. Luc 14, 38. Alors, on va dire le texte. Luc 14. C'est pas 38, je crois que c'est plutôt 28. Enfin, alors je vais voir Luc 14. Oui, c'est ça, c'est 28. Luc 14, 28. Si l'un d'entre vous veut construire une tour, il s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer. Autrement, si après avoir posé des fondations, il ne peut pas la terminer, tous ceux qui le verront se mettront à se moquer de lui en disant « Cet homme a commencé à construire, il n'a pas pu finir ». De même, si un roi part en guerre contre un autre roi, il s'assied d'abord pour examiner s'il peut, avec 10 000 hommes, affronter celui qui vient d'attaquer avec 20 000. Si ce n'est pas le cas, alors que l'autre roi est encore loin, il lui envoie une ambassade pour demander la paix. Ainsi donc, aucun de vous, à moins de renoncer à tout ce qu'il possède, ne peut pas être mon disciple. Eh oui. Il faut réfléchir. Beaucoup de gens me disent, le Saint-Esprit m'a dit, et ils s'élancent dans des histoires qui vous cassent les pieds, qui sont invraisemblables, et puis, bon, ça tient un peu. Moi, je m'éloigne de ces gens-là. Parce que je sais qu'un jour ou l'autre, ils vont pas pouvoir finir, et puis ils vont être la risée de tout le monde, puis ils vont dire, oui, on m'a eu, ils m'ont trahi, ils m'ont ceci. Non, c'est eux qui, au départ, il y avait un vice de construction. Vous savez, j'en ai baptisé des gens. Maintenant, j'ai décidé, je baptise plus personne. L'apôtre Paul aussi en avait ras-le-bol de baptiser les gens. Il disait, je baptise pas. D'autres frères le font, d'autres sœurs. Moi. Des gens qui se sont engagés à suivre Jésus, se sont engagés à marcher dans la communauté, à être fidèles, quoi qu'il arrive, avec vraiment beaucoup d'émotion. Et puis après, ils ont rétrogradé. Mais plein. Ils se sont tous exposés, en faisant cela, à des chocs en retour. C'est une loi infaillible, mes frères et sœurs. Parce que tant qu'on ne sait pas, on est pardonnable. Or, une personne qui descend dans les eaux du baptême, y descend en connaissance de cause. Quand on s'engage envers Jésus, on s'engage envers son Église. On s'engage envers les ministres que Dieu a placés localement. Et on est fidèle quoi qu'il arrive. On s'engage en connaissance de cause. Est-ce que vous savez ce que c'est qu'un Athanor? A-T-H-A-N-O-R. Eh bien, c'est un four. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que nous avons eu dans notre communauté pendant quelques années des gens qui avaient eu des graves problèmes de drogue, de vie, enfin de toutes sortes. Et ces gens-là s'étaient lancés dans la poterie et ils utilisaient des fours qu'on leur avait offerts parce qu'ils n'avaient pas les moyens de se les payer eux-mêmes. Ces fours, ils ne fonctionnaient que s'ils étaient hermétiquement clos. Eh bien, l'Église de Jésus-Christ, c'est comme une famille. On ne lave pas notre linge sale devant les étrangers. Un membre de l'Église qui ne tient pas sa langue, qui salit le pasteur, ou un ou plusieurs membres de l'Église, un tel membre est absolument indigne de Dieu. Il jette des perles au pourceau. Matthieu 7, verset 6. Ne donnez pas les choses saintes aux chiens et ne jetez pas vos perles devant les porcs, de peur qu'ils ne les piétinent et qu'ils ne se retournent pour vous dévorer. Alors c'est vrai que, voilà, vous dites du mal du pasteur, vous dites du mal de celui qui vous a conduit à Dieu, vous dites du mal d'un frère, d'une sœur dans l'Église, à des gens qui ne sont pas au courant des choses. Et puis, ces gens, ils se font mal un plaisir. Ah oui, ben, enfin, t'as compris, hein, voilà, ben, c'est bien. Et puis, ils ricanent et tout. Mais un jour, ils vont se retourner, ils vont vous dévorer. Et puis, vous allez être étonné. Mais comment ça se fait? Ben voilà, c'est simplement une loi infaillible. Infaillible. C'est Jésus. Ce que Jésus dit, c'est pas rien. Et vous pensez que Dieu va laisser impuni de telles choses? Non. Parce qu'il nous a avertis et vous faites le mal en connaissance de cause. C'est-à-dire, vous avez un vice de construction. Un membre de l'Église de Jésus-Christ est un membre de l'Église de la parole. Jésus est la parole. Et vous utilisez la parole n'importe comment. Vous parlez, vous parlez, vous parlez. La Bible nous le dit bien, l'usage du verbe. C'est le plus difficile des travaux, je ne sais pas comment on dit. Celui qui sait maîtriser sa langue, n'est-ce pas, c'est comme un petit gouvernail qui dirige un grand bateau. Votre vie va de travers. Vous vous demandez pourquoi? Qu'est-ce que vous faites avec votre langue? Mais rien ne vous manquera si vous êtes humble. De l'humilité enseignée par le Saint-Esprit, et si vous possédez une volonté vraie et droite. Ce qui se passe dans l'Église, ça concerne l'Église. Et on n'en parle pas dehors. C'est saint. Ça appartient à Dieu. Et ce qui appartient à Dieu, oh, c'est pas rien. Bon, ça ne veut pas dire que ce qui appartient à Dieu est parfait. Vous appartenez à Dieu, vous n'êtes pas parfait. J'appartiens à Dieu, je ne suis pas parfait. Je construis comme je peux. Des moments, c'est plutôt bien. Des moments, c'est plutôt un peu raté. Il faut recommencer. Vous aussi. Quelles sont vos intentions? C'est ça que Dieu regarde. La volonté vraie et droite, qu'enseigne le Saint-Esprit, n'est pas la volonté qui est prisée dans le monde profane. Dans le monde profane, les gens cherchent à cultiver leur volonté, ils le font généralement pour renforcer leur ego. Dans l'Église de Jésus-Christ, la volonté vraie et droite, c'est celle de Jésus, c'est pas la nôtre. C'est pas notre volonté que nous faisons. Par cette volonté vraie et droite, on peut rendre la vue à un aveugle, parce qu'on fait partie de l'Église de la parole, et notre parole est créatrice. Oh, mais attention! Créateur ne veut pas dire créateur que de bien. Si vous avez des vices de construction, vous allez créer toutes sortes de trucs branlants et vous allez dire, oui, le diable m'attaque. C'est pas le diable, c'est vous qui êtes en train de vous démolir vous-même. Par cette volonté vraie et droite, vous pouvez faire parler et entendre et parler des sourds-muets. Mais vous pouvez aussi être réduit au silence si vous avez des vices de forme et disparaître dans l'anonymat complet, total. Mais vous pouvez faire aussi taire les ennemis de Christ par la puissance de la parole, si vraiment vous avez une volonté vraie et droite, sans avoir à agir avec votre corps physique, ni avec vos émotions, ni avec le mental. C'est par la force du Saint-Esprit qui est en vous. Cette volonté vraie et droite, c'est le vouloir que Dieu donne à ses enfants qui écoutent. Philippiens 2, 13. Dieu donne à chacun de ses enfants fidèles, là, le vouloir et le faire. Je vais vous lire ça, Philippiens 2, 13. Si mes bien-aimés, vous qui avez toujours obéi, vous qui avez toujours obéi, pas tout le monde, hein, non seulement quand j'étais présent, mais bien plus encore maintenant que je suis absent, mettez en œuvre votre salut avec crainte et profond respect, c'est-à-dire vivez les œuvres dignes de votre repentance et construisez votre mur, vos murs, votre temple d'une façon, ce qui n'est pas de vice de forme. En effet, c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire pour son projet bienveillant. Mais quand même, il y a des conditions. Toujours obéir et continuer à travailler. Aïe. Qui écoute ça? Dans le monde profane, les gens ont tendance à écouter leur cœur quand ils ont une décision lourde à prendre. Pour un disciple de Jésus, c'est autre chose, car il sait que le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. On lit ça dans Jérémie, chapitre 17, verset 9. Je vous le lis. Avec tous les petits bouts de papier qui tombent de ma Bible. Ah, si vous voyez ma Bible, là, tous les petits bouts de papier. Et j'en ai plusieurs, il y a des petits bouts de papier partout. Jérémie, chapitre 17, verset 9. Le cœur est tortueux plus que tout. Et il est incurable. Qui peut le connaître? Moi, l'Éternel, j'explore le cœur. J'examine les reins pour traiter chacun conformément à sa conduite, au fruit de ses agissements. Celui qui acquiert des richesses injustement est pareil à une perdrix qui couve des œufs qu'elle n'a pas pondus. Au milieu de sa vie, celle-ci l'abandonne et en fin de compte, il n'aura été qu'un fou. Un fou. Parce qu'ils écoutent leur cœur et ils pensent que c'est la voix de Dieu. Pour un disciple de Jésus, c'est autre chose, parce qu'il sait que le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. Alors il n'écoute pas son cœur, il écoute les chuchotements du Saint-Esprit dans le silence de sa chambre. Et là, il peut entendre que la volonté de Dieu est bonne, belle pour lui-même, mais également pour tous et pour tout l'univers. Ah. Mes frères et sœurs, la volonté profane, c'est une tension. La volonté, je dirais, initiatique, celle que le Saint-Esprit veut nous enseigner, cette volonté-là est une offrande. Derrière les propos de notre Père Céleste se cache aucune contrainte. C'est mal comprendre Dieu que de penser que ses lois sont des contraintes. Moi, en tout cas, si on me contraint, ça ne sert à rien parce que c'est pas par amour, c'est pas de l'amour. Si je suis obligé de faire un truc, ça ne va pas durer longtemps. Le vrai initié, celui qui écoute vraiment le vrai Saint-Esprit, il a envie d'offrir à Dieu, d'offrir à ses frères et sœurs sa propre vie. Il subira, il acceptera de subir quelques injustices. Par amour. L'enseignement de Jésus nous montre la ligne droite, mais aussi les rapports et les proportions. La parole qui sort de la bouche de Dieu nous donne de vivre en harmonie entre le ciel et la terre. Malheureusement, une approche charnelle de la Bible fait construire des temples qui ont des vices de construction. La règle de vie que nous donne la parole de Dieu fait que nous ne nous appartenons plus. Ceux qui cherchent à dominer le peuple avec le message de la Bible, vous savez ce qu'ils sont en train de masquer? C'est un masque qui est bien fragile. Ils sont en train de masquer leur propre peur. Ils recherchent le pouvoir, et ça, c'est un mal. C'est un vice de construction. C'est ce que Dieu déteste le plus. Les Nicolaïtes. Un être envieux, il ne peut pas progresser. Il voudra obtenir ce que son frère a. Et il va pas se remettre en question, il va se justifier. Et en fait, il ne le voit pas comme ça, mais il ne fait que de voler, de profiter, n'est-ce pas, comme la perdrix, n'est-ce pas, qui à la fin se retrouve comme une folle. C'est la manifestation du mal, d'un vice de construction. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, il nous faut veiller et prier afin d'offrir à Dieu le temple qu'il veut et non pas ce que nous voulons. Ce que nous voulons ne cause que des tensions. Quand il y a de la tension, le Saint-Esprit se retire. J'aime obéir à Dieu. Mais parce que je vois de l'amour en lui. Mais obéir à un petit chef de rayon qui parle soi-disant au nom du Saint-Esprit, il n'en est pas question. Mes frères et sœurs, si vous êtes dans ce cas-là, si vous êtes sous la coupe d'un de ces serviteurs de Dieu qui use et abuse de son pouvoir, prenez vos jambes à votre cou et allez-vous-en. Déjà, premièrement, entrez dans votre chambre et priez. Demandez à Dieu son aide, son secours. Il va ouvrir des portes pour vous et vous délivrer de ce joug par la puissance du Saint-Esprit. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous encourage. Dimanche, je passerai à autre chose. Peut-être je reprendrai, enfin je ne sais pas encore, je vais demander à Dieu, j'ai quelques petites idées, mais je vais demander à Dieu ce qui est le meilleur pour vous. Que Dieu vous bénisse et vous garde. Amen. Au revoir.